Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'interview de la semaine, nous recevons une voix singulière de la littérature contemporaine. Il est l'auteur d'un univers fascinant qui lui vaut une nomination prestigieuse, prix Rosny Aîné 2026. Il se nomme Monsieur Nicolas Baudereau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Rachel.
Comment est-ce que vous portez ?
Très bien, impeccable.
Ravi de vous avoir sur Arrivi Radio.
Enchanté, bonjour à tous.
Alors, Monsieur Nicolas, avant de parler de vos succès, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur l'homme. Qui êtes-vous ?
Alors, je suis un artiste, hein, comme beaucoup, hein, artiste, auteur depuis toujours. Bon, j'ai travaillé, on va dire, de façon classique pendant pas mal de temps, pratiquement 20 ans, et puis jusqu'à ce que j'ai un déclic, parce que j'écrivais, je faisais déjà beaucoup. Des choses artistiques, musique, etc. Mmh. Et puis, il y a eu un déclic et j'ai décidé de me lancer totalement sur ce livre-là, notamment, et de m'y mettre à fond. Voilà. Mmh. Donc, il y a des sacrifices, mais bon, maintenant, je suis content. C'est bien.
D'accord. Alors, maintenant, si vous deviez vous définir en trois mots qui n'ont absolument rien à voir avec la littérature, lesquels choisiriez-vous ?
Artiste, ambitieux, tenace ?
Artiste, ambitieux, tenace. Et pourquoi ces trois mots ?
Bon, le premier est évident, hein. Mm-hmm. Je viens juste de le dire. Oui. Ça a toujours fait partie de mon caractère. Mm-hmm. Ambitieux, pareil, je l'ai toujours été. Mm. Et puis tenace, bon, quand on a travaillé pratiquement 15 ans sur ce livre pour qu'il sorte enfin, mm-hmm. je pense que sans ténacité, c'est impossible. Mm-hmm. Il a fallu ne jamais lâcher l'affaire.
Mm-hmm. D'accord. Alors, se répéter, mais quand même, je vais reposer la question afin que vous puissiez le détailler. Qu'est-ce qui, dans votre enfance ou dans votre éducation, a semé cette graine de devenir écrivain ?
C'est une très, très bonne question. Il n'y a pas vraiment d'artiste dans ma famille, donc je suis un petit peu un cas unique.
D'accord.
Mais par contre, la passion des arts... notamment mon père qui a une très très belle bibliothèque, et c'est vrai que je me suis je me suis lancé là-dedans dans les livres qu'il avait. Je les ai dévorés parce que j'étais lecteur, bien entendu, avant d'écrire, hein, forcément il faut lire énormément, et puis voilà, donc des découvertes de la philosophie jusqu'à la SF, en passant par Balzac, un peu de tout. Voilà, donc c'est grâce à mon père, ma mère aussi électrice, voilà, donc c'est surtout ça. Et puis je pense que ça a toujours été quelque part en moi, hein, voilà, donc il a fallu juste cette petite aide, et puis pour que je m'y mette. Voilà.
Mmh. D'accord, merci beaucoup, hein, de nous avoir détaillé cette partie, hein, de cette graine qui vous a fait devenir écrivain aujourd'hui. Alors, avant d'écrire, on est un grand lecteur. Quel est le livre, peut-être très éloigné de la science-fiction, qui a été votre premier choc esthétique et qui vous a donné secrètement l'envie de prendre la plume ?
Alors, le premier, c'est vraiment pratiquement impossible de répondre, parce que j'en ai lu quand même beaucoup, beaucoup des livres.
Quelques exemples ?
Très, très difficiles. Mm-hmm. Oui, des exemples, j'en ai, bien sûr. Oui. J'ai été marqué par les pensées de Blaise Pascal, mm-hmm. en termes de philosophie. Bon, il m'a vraiment marqué. Il est toujours quelque part dans ma tête, ce livre-là. Mm-hmm. Et puis sinon, évidemment, Seigneur des Anneaux, Le Monde des A, aussi Le Monde des non-aristotéliciens de Van Vogt, plus SF. Edgar Poe m'a énormément inspiré. J'ai lu pratiquement tout d'Edgar Poe, notamment ses nouvelles, évidemment. Mm-hmm. C'est surtout ses nouvelles, d'ailleurs, puisqu'il a écrit qu'un roman, me semble-t-il. Mm-hmm. Voilà. Et puis, sinon, en sortant un petit peu de la littérature, fan absolu de Luis Buñuel et du surréalisme en règle générale. Mm-hmm. Donc, Luis Buñuel, le réalisateur mexico-espagnol, me semble-t-il. Il est mexicain, mais naturalisé aussi espagnol, je crois. Mm-hmm. Voilà, c'est le surréalisme absolu, donc l'absurde, etc. Qui, j'espère, normalement, se retrouve aussi dans mon livre, parce qu'il n'est pas que sérieux, ce livre. Il y a énormément d'absurde aussi. Le monde de l'absurde est vraiment omniprésent. Et Terry Gilliam aussi, pour Brasil. Son merveilleux film, c'est un petit peu le même univers.
Mm-hmm. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous allons à présent parler du parcours littéraire de Monsieur Nicolas Baudereau et bien sûr les œuvres passées. Avant donc les chroniques mifsudiennes, il y a eu d'autres écrits, d'autres tentatives. Alors quel regard portez-vous aujourd'hui sur vos premières œuvres? Et aussi si on peut avoir quelques titres, ce serait bien.
Ah, j'essaye de ne pas être trop difficile avec moi-même, même si quand on est perfectionniste, c'est forcément le cas. Mm-hmm. Mais oui, j'ai commencé comme beaucoup de monde à écrire des poèmes, sauf que j'ai jamais arrêté, c'est la seule différence. Mm-hmm. Donc alors malheureusement, j'avais des carnets de poésie, mais que j'ai perdu parce que j'aime beaucoup voyager, donc j'ai beaucoup bougé.
Oui.
Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui sont je pense, mm-hmm. je peux toujours essayer d'en retrouver, mais ça risque d'être compliqué, des petits carnets. Mm-hmm. Mais il reste quand même des traces de ces poèmes, notamment un qu'on retrouve au début du roman. J'ai gardé quelques textes quand même, j'ai réussi à en sauver quelques-uns, on va dire. Mm-hmm. Et voilà, donc, il y a quand même de la fierté de toute façon. Et puis justement, pouvoir utiliser des vieux textes, des textes aussi anciens, de pouvoir les mettre les intégrer comme ça dans le texte, on peut être fier quand même. Enfin, je suis assez fier de ça, ouais. Mm-hmm. C'est bien. Mm-hmm. Donc voilà. J'ai pas vraiment de titre. J'ai sorti évidemment il y a 20 ans maintenant, mm-hmm. Mon premier recueil de poésie qui s'appelle mm-hmm. Combat intérieur aux éditions mm-hmm. Le Manuscrit.
Ok.
Donc 2006, hein. 2006, et justement, j'espère, on va voir, j'espère, oui. Peut-être une réédition cette année. Si tout va bien, on va voir, on est en pourparlers. Bon, mm-hmm. Rien n'est fait,
oui.
Mais ce serait pas mal de le ressortir, corriger, parce que malheureusement, il y avait quand même beaucoup de fautes. L'éditeur de l'époque n'a rien fait du tout, n'a pas fait de correction et rien du tout. Donc, mm-hmm. c'est un peu dommage, mais bon, voilà, peut-être bien corrigé, puis avec d'autres textes inédits, ce serait bien. Mm-hmm. À voir.
D'accord. Alors, nous parlons de l'immersion dans l'œuvre qui nous rassemble ce soir, les chroniques mifsudiennes. Alors, Nicolas, expliquez-nous ce monde mifsudien. Voilà, d'où vient l'inspiration et pourquoi ce livre ?
Toujours l'envie de créer un monde. Mmh. Toujours. J'ai toujours eu cette envie-là. J'ai Tolkien et Asimov et plein d'autres comme ça, une espèce de cosmogonie. Donc, c'est un univers créé par l'auteur ou l'artiste. Mmh. Et donc Mifsud, c'est marrant parce que c'est un nom qui m'est venu vraiment par hasard bien sûr, mais enfin qui m'est venu quand je vivais à Malte. En fait, j'ai vécu à Malte quelques temps, et Mifsud, c'est un nom typique mmh. de un nom maltais typique. Mmh. Voilà, donc le nom m'est venu comme ça, et puis de là, j'avais déjà évidemment créé, donc ça c'était il y a 15 ans à peu près, 10 et 15 ans. Mm-hmm. Ouais, les toutes premières lignes, c'est fin 2005 en fait. Hein.
Wow.
Mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai maintenant. En fait, oui. C'était, pour faire très rapide, c'était des nouvelles au départ. J'étais parti sur des nouvelles. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il n'y a pas encore ce Mifsud, ce Johann Mifsud, ce roi maléfique. Mmh. Plus que maléfique, il est bien plus complexe que ça. Mmh. Mais donc voilà, c'était des nouvelles, et puis j'ai vu que des thèmes revenaient, donc du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas un court roman. Donc ça a été une novella au départ, un très court roman,
oui.
Et puis pour finir par un roman.
Voilà. Mmh. D'accord. Alors, le tome 1 s'intitule « Le soulèvement des rêves ». Et dans votre récit, le rêve est-il une arme de résistance, une simple fuite ou la seule réalité qui vaille la peine d'être vécue ? Dites-nous.
Je pense que c'est vraiment une arme de résistance. C'est la force des rêves. C'est pour moi, c'est l'espoir, hein. Mm-hmm. Quelque chose qui on peut rien faire sans cet élément dans la vie, me semble-t-il. Hein. C'est donc voilà, c'est se raccrocher à ses rêves pour mm-hmm. Les réaliser tout simplement, de pas passer du rêve à la réalité. C'est mm-hmm. évidemment, on peut pas rester que dans le rêve, mm-hmm. mais ça doit être une base, donc de l'inspiration, de l'espoir, de l'imagination. Mm-hmm. Tout ce mélange là pour en fait après réaliser ça et se battre pour ce que l'on croit en fait, et améliorer les choses si on peut, mm-hmm. le plus possible. Mm-hmm. Voilà, donc le but c'est d'améliorer, hein, si on peut essayer d'améliorer les choses,
oui.
D'apporter de la positivité, surtout dans ce monde qui devient de plus en plus fou. Hein, mm-hmm. Voilà, c'est juste me semble-t-il, un peu plus de positivité, d'humanisme, et voilà.
D'accord. Alors, est-ce que vous écrivez avec des images de cinéma en tête, ou est-ce la musicalité de la langue française qui guide ou qui dicte votre rythme?
Ouais, je pense que c'est vraiment un mélange des deux. Hein.
Le mélange des deux.
La langue est très, très importante pour moi, ça c'est sûr. Avec tous les livres que j'ai lus, c'est sûr que je voulais quelque chose de... Bah, c'est mon style, quoi. Je voulais quelque chose de très très bien écrit, hein. Vraiment, prendre mon temps pour chaque mot, c'est un énorme boulot, hein. Faut quand même, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est vraiment un énorme boulot. Mm-hmm. En tout cas, quand on fait de cette manière-là, si on veut faire quelque chose de construit et de significatif. Mm-hmm. Voilà. Et après, les images, oui, elles arrivent très vite parce que je suis cinéphile, donc forcément, le monde de Tolkien, encore une fois, ou même Blade Runner, ce merveilleux film de science-fiction, voilà, il y a un petit peu de ça, notamment dans cette ville tentaculaire de Villa Teca, c'est sûr que c'est ce tout technologique, il y a un petit peu de ça, bien sûr. Ouais.
D'accord, alors nous venons donc de conclure, si on peut le dire, nous avons parlé de l'immersion dans l'œuvre Les Chroniques Mifsudiennes. Nous allons maintenant parler de la reconnaissance et bien sûr des perspectives d'avenir de Monsieur Nicolas Baudereau. Alors, vous êtes en lice pour le prix Rosny Aîné 2026, prix majeur de l'imaginaire. Comment vit-on cette reconnaissance en tant qu'auteur?
Oui, très très fier, forcément. Hein. Je m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais que proposer comme ça, quand les éditeurs proposent, donc ils doivent proposer leur livre, le livre de l'auteur, donc au jury.
Oui.
Et j'imagine bien qu'on est beaucoup à faire ça. Surtout que il me semble avoir vu qu'il y avait eu l'an dernier donc pratiquement 2000. Oui, c'est ça, 2000 livres dans le monde de l'imaginaire. Mm-hmm. Et là, il y a une liste de 100 noms, grosso modo. Comment je pouvais imaginer être rien que sur cette première liste-là? C'est magnifique.
Oui.
Magnifique.
Est-ce que cela met une pression supplémentaire pour la suite, ou est-ce une libération?
Une libération. Il y a aucune pression. Vraiment, je vois pas du tout ça comme ça. C'est... Encore une fois, je m'y attendais pas. Donc, je regarde la liste et mon nom, il est au-dessus de Pierre Bordage. Monsieur Pierre Bordage, malheureusement, qui est mort il y a très peu, mais je veux dire, c'est un des géants de la science-fiction, donc c'est incroyable. Je suis humble, et vraiment humblement je reçois cet honneur, en tout cas déjà d'être sélectionné. Déjà, c'est, on voit mon nom circule, c'est déjà, moi je suis déjà très très content. Donc libéré, bien sûr.
Oui.
Et puis je continue les prochains tomes, c'est j'ai beaucoup beaucoup à faire.
D'accord, alors on est bien sûr en 2026, la science-fiction semble plus proche que jamais de notre réalité. Comment peut-on définir selon vous cette science-fiction?
Ça, c'est une vaste question. Ça va être difficile de répondre en quelques mots.
Oui, allez-y quand même.
Ce qui est sûr, c'est... Oui. Mais la science-fiction, de toute façon, elle a toujours été primordiale. Quoi qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce style, je peux comprendre, mais ça a toujours été là. Et généralement, les grands auteurs voient les choses arriver à l'avance. On le sait très bien, il y a toujours eu des visionnaires. Hein, donc... Wells et compagnie, Jules Verne, bien entendu, un des premiers.
Oui.
Enfin, c'est évident que c'est capital et voilà. Donc ça permet de prévoir aussi, je pense, d'une certaine manière. Ça permet de prévoir des choses qui peuvent arriver bien ou pas.
Ou pas.
Tout dépend. Oui, exactement. D'accord. Tout dépend de l'angle.
D'accord. Alors, nous tirons pratiquement vers la fin de cet entretien. Quel message ou quelle émotion vous souhaitez laisser, en tout cas, à vos lecteurs une fois qu'ils referment votre livre?
Bien entendu, j'espère que ça va plaire, forcément. J'écris pour moi au tout début, parce que je pense que c'est la base. Si vous demandez aux auteurs, je ne sais pas si tous le diront, mais ils le pensent. Forcément, je pense que le plus important, c'est déjà que ça nous plaise. Si on commence à écrire juste pour plaire aux gens, ça peut pas le faire. Donc déjà, plaire à soi-même, et puis bien entendu, j'ai envie que les gens lisent, aiment, voilà, ils soient peut-être surpris, peut-être qu'ils vont apprendre des choses, et surtout qu'ils vont ouvrir leur esprit. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert pour ce livre-là, parce qu'il est Il y a que 200 pages, mais il est vraiment riche. Hein. Mm-hmm. J'ai mis beaucoup de moi dedans. Hein. Mm-hmm. C'est pour ça, juste un mot en passant, c'est une dystopie. C'est le premier sens qu'on peut y voir, mais comme je le disais de façon liminaire, il y a énormément de second, voire de 15e degré. Hein. Il faut mm-hmm. quand même bien comprendre. Il y a énormément d'absurdes. Il y a des jeux de mots absolument partout. Il y a même des jeux de mots, comment dire, presque mystérieux. Mm-hmm. On peut relire et relire le livre et découvrir des choses différentes. Hein. Mm-hmm. J'ai mis un peu des choses mystérieuses un petit peu comme ça partout. C'est tout au long du texte.
D'accord. Voilà. Mm-hmm. D'accord. Alors, Monsieur Nicolas Baudereau, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin.
Ah ben, je vous remercie déjà pour cette interview. C'est un honneur. Mm-hmm. C'est seulement ma deuxième. Donc voilà.
Dans toute l'histoire de l'écrivain.
Ah oui, complètement. J'ai pas eu cette chance pour. C'était il y a 20 ans, hein, faut dire, mm-hmm. le premier recueil. Donc j'ai rien fait. L'éditeur ne m'a pas du tout aidé. Bon, enfin, c'est pas grave. Je vais pas lui lancer la pierre maintenant. Mais mm-hmm. c'est ouais, non, j'ai pas eu cette chance. Mm-hmm. Donc je suis très très content de pouvoir faire ça. C'est plutôt agréable de parler de choses qu'on aime. Hein.
C'est ça. C'est un plaisir aussi hein, de vous avoir. Merci déjà de nous avoir accordé le temps qu'il fallait.
Avec plaisir.
Oui. Alors, nous allons profiter également pour remercier notre amie en commun, Madame Jessica Martinasso, qui a donc voulu hein, que cet entretien soit vraiment réalisé. Et nous allons vous dire à très, très bientôt, Monsieur Nicolas.
Merci, merci à vous et merci Jessica, bien sûr, c'est la meilleure, hein. Mm-hmm. Franchement, c'est la meilleure.
J'étais donc dans l'interview de la semaine avec l'écrivain Nicolas Baudereau. Merci à lui d'avoir partagé ce moment de vérité avec nous sur Arruvi Radio. Je rappelle le titre de son roman, Chronique Mifsudienne, Le soulèvement des rêves. Bonne chance donc à Monsieur Nicolas Baudereau pour le prix Rosny Aîné et à très très bientôt pour la suite de vos explorations. Je suis Miss Alix, on se dit à la prochaine.